présenté cette saison 4 spectacles, dont 2 sont inspirés des contes Barbe Bleue et Peau d'Âne, et 2 autres de pièces de textes de Shakespeare. Ce qui est sûr, c'est que la frontière qui sépare habituellement le rêve de la réalité y est franchie pour que le théâtre s'octroie la liberté du songe, où tour à tour, on peut être homme, femme, animal, esprit ou objet. Tous ces spectacles, vous le dites, sont destinés à des adultes à partir de 8 ans. On parle donc aussi un peu d'enfance. Vous êtes philosophe de formation, auteur, formateur, metteur en scène, et vous êtes notre invité comédien aussi. Vous êtes notre invité cet après-midi. Bonjour et bienvenue.
Bonjour.
J'allais me mettre à énumérer une potentielle liste des frontières que votre travail peut bousculer, interroger depuis plusieurs années. Finalement, il me semble plus intéressant de commencer par vous demander ce que ça suggère en vous, ce mot-là. Qu'est-ce que ça vous dit comme ça, de but en blanc, en rapport avec le travail que vous menez au théâtre depuis des dizaines d'années ?
Ce à quoi je suis obligé.
De répondre ?
Non, la frontière. C'est ce à quoi je suis obligé. C'est pas un choix. C'est pas que je me dis, c'est un thème intéressant, je vais le traiter. Je suis à la frontière parce que je peux pas être ailleurs. Je suis né à la frontière, je mourrai à la frontière. Exil. Différence. Sentiment d'étrangeté, tout le temps. Et ça ne peut se résoudre que sur les plateaux, en tout cas pour moi. C'est pas un choix, voilà, ça je veux dire. C'est pas un choix. C'est pas un choix intelligent, intellectuel. C'est une nécessité vitale. Quand je vis avec une comédienne depuis 40 ans, quand on était jeune et qu'on rentrait dans un magasin, on nous disait « Bonjour, messieurs, dames ». Et au bout d'un moment, on a compris qu'on ne savait pas à qui s'adressait le monsieur et à qui s'adressait la madame. Ma compagne, la mademoiselle, ma compagne a la voix très grave.
Vous aussi, au passage, quand même.
Comment ?
Vous aussi, au passage, vous avez la voix très grave.
Oui, moi aussi, mais à l'époque, j'avais des cheveux jusqu'au milieu du dos. Je portais des talons. Pas des talons de fille, juste des talons, des chaussures rouges. Je ne sais pas, je ne me souviens plus bien. Mais... Bref, on m'appelait mademoiselle, on l'appelait monsieur assez facilement. Bon, ça, c'est plutôt rigolo, mais c'est une douleur d'être à la frontière.
C'est que ça ?
Non, pas du tout. C'est pas que ça. Mais à l'origine, c'est une douleur. On peut pas faire autrement. Voilà. Et la façon de survivre à ça, c'est en effet d'être artiste, enfin... Mais ça peut parfois être d'être criminel, ou ça peut parfois d'être un grand financier prédateur. Mais de se sentir étranger, c'est pas un choix, quoi. Voilà, c'est ça.
Quand on prononce le nom frontière, pour vous, est-ce qu'il y a forcément la notion du franchissement ou du dépassement ? Parce que vous avez tout de suite parlé de quelque chose qui vous obligeait, comme quelque chose de l'ordre de la limite, pas quelque chose que vous pouvez franchir.
Non, je pense pas franchissement, non. Je pense côtoiement, je pense survol peut-être, de jouer avec, de s'amuser avec, d'en faire du plaisir, des plaisirs, de contourner le problème. Pas de le franchir, plutôt de le contourner, de faire avec, de faire de la faille initiale, de la faille archaïque initiale, de la douleur initiale de cette chute dans l'air, qui est une naissance, qui est une mise à la vie et qui est en même temps une mise à la mort, de faire de cet événement douloureux initial, d'en faire oui, des plaisirs. Mais un franchissement, non. Je ne dirais pas ce mot-là. C'est pas ce que m'inspire le mot frontière. Mais des plaisirs, oui. Par exemple, au théâtre, une des frontières avec lesquelles le théâtre joue beaucoup depuis toujours, c'est la frontière transgenre, comme vous dites maintenant, vous, les jeunes, nous, on disait pas.
Qu'est-ce que vous savez que je dis transgenre, moi ?
Non, mais pas vous personnellement, je sais pas.
En même temps, vous me regardez quand vous dites
le mot,
ça.
Oui, je vous regarde, évidemment, je vous regarde. Le mot genre est un mot un peu nouveau, voilà, c'est ça que je veux dire. Ça nous vient des Américains, tout ça. Mais bon, le transsexuel, La frontière entre le masculin et le féminin, c'est un thème aussi vieux que le théâtre, probablement aussi vieux que l'humanité. Et le théâtre s'amuse beaucoup de ça. Mais le théâtre est également très cruel avec ça. Shakespeare, pour ne parler que de lui, joue en permanence des travestissements. Et le travestissement est à la fois une réponse à la mainmise sociale du politique sur l'individu. On doit être comme ça, on doit être comme ci, on doit être homme, on doit être femme, avec des connotations plus ou moins absurdes, d'autant plus absurdes qu'elles changent avec les époques. C'est aussi le plaisir que l'individu peut prendre à transgresser ses codes imposés, à jouer avec, à les mettre en dérision, à les mettre en regard de tolérance, c'est-à-dire de les mettre en dérision, ça ouvre à la tolérance. C'est quoi un homme, c'est quoi une femme? Il y a des réponses simples à ça, totalement intolérantes, massacrantes, dangereuses, en permanence. Et puis il y a des réponses ouvertes à ça, questionneuses, ludiques, joueuses, donnant du plaisir. Et en art, donnant du plaisir aux spectateurs. Parfois, rien ne me plaît plus. Dans le sens d'une idée que j'ai montée, il y a un personnage qui s'appelle Titania, qui est une fée. C'est une fée. Et moi, je le faisais jouer par un très joli jeune homme. Et à un moment donné, cette fée tombe amoureuse d'un âne. Bon, ça, c'est un détail pour Shakespeare. Très amoureuse, très tentée par les objets majestueux de l'âne. Bref, et ce très joli jeune homme se retrouvait en string, se livrant à l'âne.
Chez Shakespeare, pas...
Dans Shakespeare, non, bien sûr. Ouais. Enfin, Shakespeare, c'était pas string. Mais l'esprit y est, je vous garantis, l'esprit y est. Et une fois, en rencontrant des jeunes gens, une jeune fille me dit « Mais monsieur, c'est dégueulasse, la fée, elle se met torse nu, monsieur. » Je dis « Oui, mais t'as remarqué que c'était un garçon. »« Oui, mais c'est une fée. Elle est torse nu, on voit ses seins. » Je dis « Oui, mais t'as vu que c'était le buste d'un garçon. On a le droit de voir le buste d'un garçon en entier. »
Mais on n'a pas le droit de voir le buste d'une femme en entier.
Au théâtre, on a le droit. Légalement, on a le droit. Je ne vous dis pas l'effet que ça paraît faire aux jeunes gens et dû par contre-coup aux professeurs ou aux professeurs et par contre-coup aux jeunes gens. L'effet que... Mais c'est incompréhensible pour moi. C'est incompréhensible l'effet que la moindre des nudités peut opérer sur les spectateurs de maintenant. Là aussi, c'est une frontière étrange. Tout le monde sait que en deux clics, on voit... C'est pas une nudité qu'on voit en deux clics sur le net. Hein. C'est le pire, le plus hard. Et une épaule dévoilée au théâtre déjà éveille l'attention. Et oui, le bout d'un sein, c'est amusant, parce que je peux montrer le décolleté, le haut d'un sein d'une fille sans problème. Le côté d'un sein d'une fille sans problème.
Et pas un
téton. Non, pas le bout. C'est drôle. Donc quand on discute de ça avec les spectateurs, estomaqués d'avoir vu le bout du sein d'une fille, le ridicule les fait rire d'eux-mêmes.
Et en même temps, on pourrait considérer que le théâtre, la danse contemporaine, tous les arts de la scène ont chahuté cette frontière de la nudité au plateau depuis des dizaines d'années maintenant. Alors quelle est cette frontière qui résiste en effet? C'est-à-dire que si on met de côté une élite culturelle qui a l'habitude de voir ça au plateau, si on oublie ces gens-là et qu'on se concentre sur la majorité des autres spectateurs qui continuent en effet d'être sinon choqués, en tout cas troublés ou interrogés par la nudité au plateau, qu'est-ce qui se joue? Comment ça se fait que sur un plateau, un corps nu, un téton, un orteil bien déshabillé, puisse à ce point réveiller en nous, alors qu'on est dans un paysage en effet d'accessibilité à la nudité, à la pornographie, à la sexualité, encore ce serait bien si c'était la sexualité, mais ce n'est pas le cas. Qu'est-ce qui reste comme frontière là? Qu'est-ce qui n'est pas franchi?
C'est un mystère, c'est un vrai mystère, mais qui me passionne beaucoup. C'est un mystère que, lors des multiples rencontres que je peux avoir avec des spectateurs de tous les âges, ça soit, il y a une nudité qui dure deux secondes, je suis absolument certain que je vais être questionné là-dessus. C'est un mystère que les jeunes gens qui sont inondés de nudité de toutes sortes soient interpellés par une brève, délicate, drôle nudité fondée. C'est un mystère. Mais le fait est, ça me donne beaucoup de plaisir. Ça dit la force du plateau. Ça dit la force du ici et maintenant que représente le théâtre par rapport au virtuel, etc., à la photo et tout ça. Ça les met dans, la présence, j'imagine que la présence réelle des corps à quelques mètres d'eux rend considérable une chose qui par ailleurs est totalement un détail. C'est sûrement une des raisons. C'est pas la seule. Le théâtre est lié, pour le meilleur et pour le pire, à la culture. C'est souvent un fait culturel, c'est une action culturelle pour les gens de venir au théâtre. Et la culture, c'est un peu l'école. La culture, on ne dit pas de gros mots et on ne montre pas de corps nus. Donc c'est une transgression lorsqu'on fait ça sur un plateau de théâtre, le théâtre qui joue des auteurs connus, les mêmes auteurs que ceux qu'on étudie à l'école, etc. C'est une transgression inattendue, j'ai l'impression, pour les gens, qu'on puisse se permettre ça. C'est comme les gros mots dans Shakespeare, il y a beaucoup, beaucoup de mots très crus. Et moi, je traduis, j'adapte avec des mots très crus de maintenant. Et les gens sont stupéfaits. Et quand je leur dis non, mais les mots de Shakespeare, de l'époque de Shakespeare, choquaient les contemporains de Shakespeare. Donc ça vous choque, mais je suis très très proche de Shakespeare. Ils sont sûrs et certains que c'est une adaptation de ma part, une modernisation, etc. etc. Et ce qu'on appelle la vulgarité, la crudité de langage, la verdeur de langage, l'obscénité, est aussi un élément qui les stupéfie. Je sais pas, le théâtre est vraiment lié à l'ordre social. Il est confronté à ça en permanence et il interroge ça en permanence.
S'il veut bien l'interroger.
Oui, s'il veut. Il peut ne pas vouloir l'interroger.
C'est pas quelque chose qui... C'est-à-dire que si on veut que le théâtre interroge l'ordre social, il l'interroge. Mais par ailleurs, vous connaissez comme moi des théâtres qui ne le font pas.
Oui. C'est pas du théâtre.
Il faut que tu fuisses, loin d'ici, et vite. Garde cette podane sur tes épaules pour n'être reconnue par personne.
Non ! Elle est trop moche et puis elle pue !
C'est exprès, idiote. Personne ne doit t'approcher. Tu es fille de roi. Tu ne peux aimer qu'un roi.
On le saura !
Sous cette peau, personne ne te draguera.
Ah ben ça risque pas ! Je suis dégoûtante comme un vieux steak pourri.
Et toi, répète. Je suis fille de roi. Je ne peux épouser qu'un roi.
Avec cette charogne sur le dos, je ne peux aimer personne du tout.
Répète.
Je suis fille de roi. Je ne peux aimer qu'un roi.
Tu mon âme, bourreau. Assomme-le à coups de masse. Et tu le comme un porc. Rien n'est trop beau pour l'amour de ma fille. Tant pis pour moi et pour le royaume. Tant pis pour les richesses, pour mes sujets, pour les lois, pour les dieux. Je vais épouser ma fille, je l'épouserai. Tu m'en as de bourreau.
Jean-Michel Rabeux, c'est un extrait de Peau d'âne, une de vos dernières créations, directement inspirée du conte. Quelle est la principale frontière qui, dans ce conte et dans la lecture que vous en faites, chahutée ?
Le rapport père-enfant et père-fille est un rapport extrêmement complexe, mystérieux et dangereux. Il est interrogé par Perrault, il est interrogé par le comte. Et le spectacle ne met pas de côté le problème qui peut exister, qui existe forcément dans le rapport parent-enfant. C'est l'inceste dans Peau d'âne. Mais l'inceste n'est qu'une des figures du trouble et de la difficulté qui peut exister entre les parents et les enfants. Je crois que la frontière interrogée est celle-là. Ce qui est tu d'habitude, ce qui est vécu d'habitude par tout le monde, mais plutôt silencieusement, plutôt secrètement, plutôt difficilement, même des choses infimes, je ne suis pas en train de parler des choses terribles, de faits divers, non, tout le monde vit parfois difficilement ce type de rapport et le vit souvent secrètement et douloureusement. Et le spectacle offre ces questionnements au rire, au plaisir, à l'amusement, à la révélation des âmes enfantines, y compris de l'enfant qu'est l'adulte également. Je crois que c'est ça le plus... La frontière, elle est là. Comment traiter du problème de l'inceste sans être justement dans le fait divers, dans le moralisateur, et en étant en même temps conscient que dans la salle, sur le grand nombre de représentations qu'on va avoir, de temps en temps, il y aura quelqu'un qui a un vrai problème avec ça. Donc on peut pas le traiter avec négligence. Je l'ai traité avec beaucoup de soin, beaucoup de délicatesse, mais je l'ai traité, y compris pour les enfants. J'ai essayé de m'adresser à la profondeur de l'âme enfantine et à sa douleur possible pour essayer, c'est l'utopie, de l'adoucir, la douleur.
Ce n'est pas le seul spectacle qui s'inspire d'un conte, il y a aussi Barbe Bleue, et que ce soit celui-ci ou l'autre, vous les décrivez comme des spectacles destinés à des adultes à partir de 8 ans. Ici, c'est l'âge adulte que vous faites commencer tôt chez votre spectateur, ou c'est l'enfance que vous faites terminer tard ?
C'est l'enfance que je fais terminer tard. Tous mes spectacles s'adressent à une part d'enfance de chaque adulte. Certains de mes spectacles s'adressent à des enfants, mais tous s'adressent à une part d'enfance. Une part, justement cette part qui essaye désespérément de demeurer libre, qui essaye d'échapper à une uniformisation de la pensée, des gestes, des sentiments, qui se souviennent d'une sauvagerie, d'une cruauté, et aussi d'une douceur et d'une générosité. J'ai beaucoup, beaucoup de souvenirs d'enfance. J'ai beaucoup de souvenirs de la douleur de l'enfance. J'ai beaucoup de douleur du massacre qu'est une mise au pas de l'enfance. Le massacre nécessaire pour devenir adulte. Sinon, en effet, on ne peut pas vivre. Et c'est à cette part-là que je m'adresse. Dans Roméo et Juliette, là, je monte une adaptation de Roméo et Juliette à RNG. C'est la même chose. Ils ont 16 ans, 17 ans, 20 ans, on s'en fout. Ils sont jeunes, ils sont vierges. Ils n'ont absolument pas le droit de s'aimer. L'ordre social leur interdit, sous peine de mort, de s'aimer.
Ils le font d'autant plus.
L'ordre clanique, l'ordre de la guerre, leur interdit de s'aimer. Et ils vont le faire en sachant qu'ils vont mourir. Peut-être ils le font parce qu'ils savent qu'ils vont mourir. Pour rejoindre le début de la conversation, ils vont faire l'amour sur le plateau. Donc on va entendre beaucoup de choses. Comment on fait pour... J'avais envie... Vous savez, je suis d'une génération où faites l'amour, pas la guerre. C'est totalement imbécile comme truc. Mais je tiens férocement à cette imbécilité. Et le thème de Roméo et Juliette, par exemple, qui est un conte pour adultes, Roméo et Juliette, me fascine à cause de ça. Faites l'amour, pas la guerre. J'ai envie, dans Roméo et Juliette, de montrer, je travaille là-dessus, la violence insupportable de la guerre. Et j'ai envie, en même temps, qu'il y ait une scène d'amour entre les deux jeunes gens, les deux jeunes vierges, qui soit tellement délicieuse, pas excitante, non, pas du tout, délicieuse, drôle, qu'on puisse éclater de rire, de plaisir, à les voir s'aimer. Le rempart contre la mise en nation, contre l'obéissance aux lois des hommes, le rempart est souvent le corps et souvent les désirs enfantins qui nous viennent d'avant. Ce qui fait traverser les frontières, ce qui fait changer de nation, donc changer de mœurs. Ce qui fait traverser les frontières, c'est la puissance des corps qui s'appellent les uns les autres. Je crois beaucoup, beaucoup à ça.
En même temps, vous dites aussi combien est-ce qu'il faut renoncer à certains des désirs impossibles de l'enfance pour y mettre fin et pour entrer dans un âge adulte qui ne l'abolit pas, qui n'oublie pas cette enfance, mais qui la laisse inévitablement derrière. Dans RNG, cette adaptation de Roméo et Juliette, le fait qu'il meure, c'est cet abandon du désir impossible, c'est leur mort.
C'est pas moi qui tue Roméo et Juliette.
C'est pas moi non plus.
C'est Shakespeare.
Vous les auriez laissés en vie.
C'est Shakespeare. Ah, je suis tenté de les laisser en vie, vous pouvez pas imaginer.
Ah oui, mais alors là, ça change tout, excusez-moi. Mais déjà, c'est pas du tout sûr qu'ils s'aiment de la même façon.
Je suis tenté de les laisser en vie. J'ai envie que pour une fois, ils meurent depuis 500 ans, Roméo et Juliette, à la fin. J'ai envie qu'ils meurent pas.
Est-ce que vous allez le faire ? Est-ce que vous allez les laisser en vie ?
Vous voulez la vraie vérité ?
La vraie vérité.
J'en sais rien.
D'accord.
Je suis en répétition.
Qu'est-ce que ça change ? Parce que c'est intéressant de se poser cette question-là. Qu'est-ce que ça changerait si Roméo et Juliette ne mouraient pas ?
Dramaturgiquement, ça change rien. C'est pas un avis sur le monde, un avis philosophique sur le monde que ça donnerait. C'est juste un tout petit plaisir par ces temps difficiles, un tout petit plaisir qu'on donnerait aux spectateurs.
Vous êtes sûr que ça ne changerait rien dramaturgiquement ni philosophiquement ?
J'en sais rien, je m'en fous. J'ai envie qu'il meure pas.
Oh, j'ai envie de vous l'accorder juste pour maintenant.
Je suis habitué depuis longtemps, depuis toujours, à ce qu'une terre, une langue, tout un pays gisent en moi sans que j'y sois pour grand-chose. Un pays en moi que j'explore par force, avec effroi ou délice, et dont je sais qu'il me restera pour toujours lointain, autant que familier. Criard, agité, énigmatique et païen, ruisselant de sang, de corps, d'excès, de confettis et de gloussements. En moi des scènes étranges que je ne comprends pas plus que le napolitain du Querelle mis en scène par Antonio Latella, mais que je comprends très bien, parce que c'est quand je ne sais pas pourquoi que je comprends vraiment. La scène étrange me rend étranger à moi-même, saisi d'une émotion que je n'attendais pas, pris par surprise à la gorge. Une scène, je me dis, une scène doit toujours un peu être obscène. Porter sur ses planches ce que la bienséance ou simplement l'ordre des choses nous interdit d'usage et même de penser. C'est ainsi qu'au théâtre, il n'y a pas deux sexes, mais au moins trois. Il n'y a pas de vêtements, mais des parures. Pas de visage, mais des âmes à nu. Pas de phare, mais des plaies. Pas de mots, mais des armes proférées. Pas de nature, mais des fossiles. La vie intense qui donne des coups de talon aiguille. Pas de beauté, mais au moins mille. Pas d'âge, mais l'abîme du temps. Pas de mort, puisqu'on se relève. Et ainsi je ressuscite tous les amis que la vraie vie m'a tués. Pas de famille, mais le dessous des cartes. Pas de pouvoir, mais des dents qui brillent dans les projecteurs. Pas de sexe gonflé, mais notre effroi de le voir bondir ou s'ouvrir. C'est ainsi qu'au théâtre, tout nous est permis, et de tuer, et d'aimer, et de désirer, et de mourir, et de rire, de mourir. Et ainsi nous sommes étrangers. Et ainsi, nous ne sommes pas tout à fait fous.
Oui, il est de vous, Jean-Michel Rabeu, ce texte qui s'appelle « Scène étrangère ». C'est un édito, en fait, que vous faisiez pour la saison 2004-2005 à La Rose des Vents. Je voulais que Cyril Baer en fasse lecture, il vient de le faire à l'instant, avec brio, parce qu'il me semble que ce texte-là, qui annonce une saison de théâtre, donc on y est, on est au théâtre, on est juste avant que le théâtre ne se fasse, parle de beaucoup de frontières, et notamment d'une frontière qui demande à ce que chacun aille voir en soi ce qui est autre, ce qui est étranger. Est-ce que ça fait partie de l'une des choses que vous brassez à la fois dans votre travail de mise en scène, mais surtout dans la façon dont vous pouvez diriger des acteurs? Et comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un d'aller explorer cette frontière-là en lui, sachant qu'elle nous est par définition non seulement inaccessible, mais en plus souvent invisible?
Alors, je fais plus que le demander aux acteurs. Je choisis mes acteurs en fonction de ça. C'est-à-dire, c'est pas moi qui leur demande. Je choisis des acteurs pour qui c'est une nécessité absolue d'aller dans ces endroits-là. Bien évidemment, ce qui m'intéresse, ce qui me passionne, ce dont j'ai un besoin absolu, c'est les acteurs qui vont chercher en eux ce qu'ils ignorent avoir en eux. C'est cette science de l'acteur pour lequel j'ai tant, d'admiration, c'est d'avoir la faculté imaginative de plonger en lui pour ressortir des choses qu'il n'attendait pas du tout. Et ces choses-là, de savoir les mettre en forme, de savoir les réutiliser après, c'est un art extrêmement complexe, l'art de l'acteur au théâtre. J'ai beaucoup, beaucoup d'estime pour ça. Oui, bien sûr, c'est ça qui m'intéressait. C'est le monstre qui m'intéresse en l'acteur. Non pas le monstre au sens de convenu du terme, de quelqu'un allant vers l'animalité, mais le monstre au sens de quelqu'un de qui échappe à l'ordre des choses, de quelqu'un qui est double, triple, quadruple, de quelqu'un qui est tueur et d'une extrême douceur, de quelqu'un dont la douceur peut tuer. Enfin, c'est un oxymore, un acteur, c'est mille oxymores. Oui, bien sûr, j'ai besoin de ça. Combien de fois je demande à tout acteur, je demande où est l'actrice en lui. À toute actrice, je demande où est l'acteur en elle. À tout tragédien, je demande où est le grotesque en lui. À tout clown, je demande d'être tragique. Je demande ce qui n'est pas une affaire entendue. J'ai un besoin sur le plateau de dévoiler. Alors souvent les corps, j'aime beaucoup dévoiler les corps, mais bien évidemment le dévoilement des corps, il est pour dévoiler les âmes. Et c'est seulement dans la mesure où l'acteur va chercher en lui une sorte d'authenticité secrète qu'il est susceptible, par le biais de son corps, chargé de cette authenticité, des humeurs de cette authenticité, des larmes, des sueurs, des postillons, des tremblements. C'est seulement dans cette mesure-là que l'acteur va parvenir à toucher l'authenticité secrète de chacun des spectateurs. Je crois profondément à ça. Je crois profondément que c'est lorsque l'acteur va vers ses frontières. Et la seule chose qui permet d'échapper à la folie, c'est la mise en ordre de tout ça. Et après, il faut le peindre. Après, il faut sortir les couleurs, il faut sortir tout l'artisanat du théâtre qui est très lourd, très complexe et très exigeant et qui et nous fait échapper à l'apitoiement et à la folie. Mais c'est d'aller loin, loin, loin à l'intérieur de lui-même. Quand tu joues Phèdre, t'es criminel. Tu vas chercher la criminelle en toi. Sinon, tu ne joues pas Phèdre. Quand tu joues Phèdre, tu meurs. Sinon, tu ne joues pas Phèdre. Sinon, tu ne vas pas créer un souvenir inoubliable. Inoubliable. C'est-à-dire pour toute la vie. Inoubliable, ce n'est pas une chose majuscule, c'est juste un souvenir pour toute la vie. Moi, j'ai des souvenirs de théâtre inoubliables. C'est ça qu'on cherche à chaque fois qu'on monte sur le plateau, créer un souvenir inoubliable. Pour créer un souvenir inoubliable, il faut aller au bout de soi-même. Il faut aller au bout de soi-même. Si tu joues Macbeth, tu joues un salopard de tueur. Et voilà quoi, il faut chercher en soi quel est le salopard de tueur.
Quand vous dites qu'il faut peindre, ça veut dire qu'en tant que metteur en scène, il vous revient la responsabilité de créer la frontière qui va, elle, contenir tout ça et qui va... Est-ce qu'on peut dire que c'est une frontière qui va protéger et l'acteur dans sa démarche et le spectateur qui regarde ?
Oui, mais c'est également réparti entre les acteurs et moi. Moi, j'ai une fonction comme ça, mais l'acteur aussi, il l'a. Vous savez, on a cette chose idiote, hein, ça s'appelle le salut, quoi. On arrête le jeu. Il y a la convention, le code fait qu'en effet, on peut aller très loin parce qu'on est sur un mode conventionnel avec les spectateurs. Non, c'est également réparti chez tout le monde. C'est en permanence, en répétition, que ça se pose.
Est-ce que c'est réparti également du côté du spectateur ?
Pardon ?
Est-ce que c'est réparti également du côté du spectateur ?
j'essaye que les formes proposées laissent au spectateur... j'essaye de ne pas envahir le spectateur. J'essaye de ne pas l'assommer. J'aime pas la brutalité. On dit souvent que mes spectacles sont violents. Et pourtant, vraiment, je vous jure, je fais très attention à ça. Les thèmes sont violents, mais j'essaye qu'il y ait une délicatesse qui laisse au spectateur le choix. Les enfants, bien évidemment, et là, c'est fait d'une manière très délibérée, mais même les adultes. Roméo et Juliette vont faire l'amour sur le plateau. Je ne veux pas que ce soit une scène qui devienne que scandaleuse. Ça ne m'intéresse, mais pas une seconde. Pas une seconde. Donc je cherche avec les acteurs, et là on est absolument à égalité. Imaginez, une jeune fille, un jeune homme qui vont faire l'amour sur le plateau. Évidemment, on ne va pas faire l'amour au sens réel du terme, mais qui vont avoir des gestes obscènes sur le plateau. C'est extrêmement difficile pour eux. C'est extrêmement violent. Donc on cherche d'un commun accord comment faire que cette scène soit délicieuse, soit drôle, et emporte l'imagination du spectateur, surtout sans créer un rideau de fer de provocation qui bloque le spectateur dans un seul sens, soit d'adhésion, parce qu'il aime la provocation, soit de refus, parce qu'il la déteste. Ça, ni l'un ni l'autre ne m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est de laisser le spectateur errer, même pendant toute la représentation, même la nuit de la représentation, même le lendemain, même une semaine après, que son âme erre, qu'il ne sache pas ce qui s'est passé. Et que ça revienne, et que ça revienne, et que ça revienne en impression inverse de ce qu'il a ressenti pendant la représentation. Désagréable ou agréable, dans le positif ou le négatif, je m'en fous de ça. Ce que je veux, c'est, enfin, ce que j'essaie, c'est que ça danse dans sa tête, que ça perdure, comme un air de musique, qui revient la nuit, on ne sait pas d'où, etc. C'est ça que je cherche.